Chers amis du Libre Journal de la Transmission, nous voici à nouveau ensemble pour explorer ce que notre époque peut offrir de meilleur. Je crois que c'est vraiment ça l'objectif de ce temps que nous passons ensemble. La semaine dernière, le Centre National du Livre Ipsos 2026 nous a donné les résultats de cette enquête périodique sur les Français et la lecture, et maintenant orientée sur les jeunes et la lecture. Elle concerne les 7-19 ans. Sans surprise, elle révèle que les enfants, les jeunes, passent en moyenne 10 fois plus de temps devant un écran qu'à lire un livre. Ça devient vertigineux. Baisse de la concentration, du plaisir de la découverte lente, mesurée, que ne permet pas le rythme imposé par les supports culturels vidéo sur les écrans. Et si le puzzle éducatif était une clé pour instaurer ou restaurer ce plaisir de l'apprentissage dans une activité qui allie savoir et beauté, dextérité, motricité fine, à faire seul ou en famille ou même en classe. Défi relevé par l'atelier Cyrano qui se lance dans la création de puzzles de qualité. À notre micro, son fondateur Bertrand Matière. Bonjour monsieur. Bonjour Bertrand, je ne vous entends pas mais cela va venir. Et l'un des dessinateurs de ces puzzles, Régis Parenteau de Noël. Bonjour Régis.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Je suis ravie parce que tous deux, vous allez nous révéler quelques secrets d'abord de l'idée, de la création, de la réalisation de ces puzzles que nous n'avons pas encore entre les mains parce qu'ils sont en création grâce à une campagne de financement participatif Ulule. Livraison en juillet pour les vacances en famille, je trouve que c'est parfait. Bertrand Matière, vous êtes professeur d'histoire-géographie et donc fondateur de l'atelier Cyrano, c'est puzzle culturel. Et puis, on en parlera après, mais vous avez dans l'idée une papeterie d'univers. Alors, vous nous expliquerez ce que c'est. J'aimerais savoir ce qui vous a donné cette idée de passer par le puzzle.
Bonjour madame, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, c'est parfait.
C'est bien. Cette idée m'est venue en cherchant des cadeaux de Noël. Bon, ça fait longtemps, comme je suis professeur d'histoire et en même temps père de famille, que je suis attaché à la transmission et je cherchais des biais, des idées. Et je cherchais notamment des puzzles à Noël qui nous fassent un peu sortir du chat et du château en Bavière. Un puzzle qui n'est pas juste un passe-temps, mais aussi un moyen de transmettre notre culture, notre patrimoine. Et je me suis aperçu qu'il y avait assez peu, voire pas du tout, de puzzles de ce niveau. Et dans ma manière de vouloir transmettre l'histoire et la littérature, je m'étais dit qu'il faudrait renouveler en fait le concept des images d'Épinal, c'est-à-dire apprendre par le beau, par l'image, et quoi de mieux que le puzzle qui est finalement qui prend le contre-pied de l'écran et de l'instantané. Là, c'est l'éloge de la lenteur. L'éloge aussi finalement de se retrouver, des retrouvailles en famille. Hein. J'ai testé moi-même le fait de déployer un puzzle sur une table qui reste parfois 10-15 jours et chacun vient y poser quelques pièces. Et le miracle se produit à chaque fois puisque nous n'avons plus de demande d'écran à la maison. Les enfants viennent se poser à côté de nous et en fait ont plaisir à y rester, à tel point que les repas de famille commencent souvent un peu plus tard parce qu'on a toujours envie d'aller chercher la pièce qui manque. Donc je pense que cette solution là est un bon contre-pied finalement à l'invasion de l'écran dans les maisons et permet aux familles de se retrouver autour de cette image.
Pour l'instant, vous mettez en vente trois sortes de puzzles, trois puzzles. Pouvez-vous nous dire rapidement les trois thèmes et qui a dessiné quoi ?
Alors, le but d'abord, c'est de ne pas s'adresser uniquement à des enfants, même si les univers pour l'instant paraissent peut-être plus enfantins. Nous avons commencé par les fables de La Fontaine avec une trentaine de fables illustré dans un jardin à la française par Cécile Guinement, qui nous a aussi créé la mascotte de Cyrano. Alors Cécile Guinement, c'est une illustratrice confirmée, notamment dans le milieu de la littérature enfantine. Elle a beaucoup travaillé pour les éditions Teki et Plein Vent. Elle nous a illustré aussi le monde de la comtesse de Ségur. Donc ces deux puzzles-là seront en 500 pièces, toujours très très foisonnant avec une multitude de détails, de petits clins d'œil. Et puis, je dirais destiné à un plus large public, amoureux aussi de la bande dessinée, nous illustrons une grande partie de l'œuvre et de la vie de Alexandre Dumas, cette fois-ci en 1000 pièces. Et c'est De Noël, un illustrateur qui travaille beaucoup d'ailleurs pour Plein Vent, qui s'est lancé dans cette aventure titanesque, puisqu'il fallait essayer de retrouver le maximum d'éléments qui faisait des clins d'œil à la vie d'Alexandre Dumas, mais aussi à son œuvre. Je pense qu'on a à peu près réussi à illustrer 25 à 30 ouvrages d'Alexandre Dumas. Bon, évidemment, il y en a plus de 200, mais on a réussi quand même sur un puzzle de 1000 pièces qui fera à peu près 73 cm sur 60 à avoir une bonne synthèse de son œuvre.
Alors, Régis Parenteau de Noël, vous vous êtes lancé dans cette aventure, vous avez relu tout Dumas?
Non, 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 là je dois tirer mon chapeau à Bertrand qui savait très bien où il allait et qui m'a coaché, qui m'a guidé, qui m'a canalisé peut-être. En tout cas, il avait une feuille de route sur quoi privilégier. Bon, après, ça faisait aussi l'objet de discussions, hein, voilà, parce que entre la première idée et la mise en forme, il faut forcément faire beaucoup de choix, comme le
Bah
dit
oui,
Bertrand, hein,
je l'ai sous
parmi.
les yeux et
Voilà.
enfin, je n'ai pas le puzzle sous les yeux, puisque je redis à nos auditeurs, pour l'instant, c'est une campagne Ulule, donc les livraisons seront en juillet, mais vous avez eu la gentillesse, Régis Parenteau de Noël, de m'apporter une copie du dessin et l'on voit effectivement des petits personnages, grands personnages. C'est peut-être là-dessus qu'il a fallu faire des arbitrages. Et puis, comme vous le dites, Bertrand Matière, ça s'adresse aussi aux adultes qui vont peut-être du coup évoquer des livres qu'ils ont lus. Enfin, tout ça, vous voyez, je vois vraiment le lien avec la lecture. Et Régis, ça vous a demandé combien d'heures de travail de faire donc cette planche qui fait quelle taille, la planche
Alors
elle-même?
le format de mon dessin, bah, comme est au même format que le puzzle sera au format du dessin, donc 70 par 50,
Voilà,
à peu près, hein,
à peu près, voilà, c'est
approximativement.
ça.
Et donc, je crois que j'avais jamais eu une commande comme ça, comme j'ai dit
C'est
à
vrai?
Bertrand. C'est-à-dire que c'était foisonnant, quoi. Donc ça m'a pris un mois de travail entre le dessin et la couleur. Bon, il a fallu aussi tâtonner un peu. Hein, j'ai au niveau du format, En fait, on a fonctionné par quartier, par époque, en fait,
Oui.
par époque. Donc il y a des thématiques autour de, bon, bah, les Trois Mousquetaires. Ça regroupe le 17e avec le Masque de Fer ou. D'autres, la tulipe noire, ou voilà, bon, Monte Cristo qui a un autre quartier. Donc il y avait. En fait, c'est un grand dessin avec des sous-dessins quelque part,
Mais oui.
mais il fallait quand même composer un peu l'ensemble, qu'il y ait un peu du lien entre les deux, ce qui est ça qui était le moins évident.
Une
Bon,
première
je pense
petite
qu'on
question,
s'en est sorti.
Régis. D'habitude, ce n'est pas vous qui colorez vos bandes dessinées.
Oui,
En
alors.
général, vous avez un coloriste. Là, c'est quelque chose que vous avez fait vous-même, vous aimez le faire.
Oui, c'est aussi un plaisir. Ah bon, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup, il y a eu des, on a cherché d'abord. Hein, il a fallu caler les choses, le fond, hein, n'est-ce pas, Bertrand? Voilà, et puis les petits détails. Puis après, bon, bah, il y a tellement de détails qu'on oublie des choses. Il faut y revenir. Mais voilà, mais oui. Alors pour moi, c'était l'occasion de me remettre à la couleur, ce que je fais de temps en temps. Mais sur un album, on n'est pas du tout sur la même perspective. On a souvent des délais assez courts, et donc j'allais dire chacun son métier. Donc il y a un scénariste, un dessinateur. En l'occurrence, c'est moi et une ou un coloriste et voilà qui me talonne de près pour la couleur. Donc là, il s'agissait d'un dessin, donc voilà, je tenais à le faire aussi. Ça faisait partie de l'ensemble.
Oui, c'est ça, une manière de travailler un peu en tenant les deux. C'est très intéressant, je pense. Pour vous, ça a été une expérience
Ah
intéressante.
ben, en fait, dès que Bertrand m'a contacté, qui m'a parlé de son projet, ça m'a enthousiasmé.
Ouais.
C'était pour moi l'occasion de dessiner, de sortir de mes cases, voilà, par
C'est
rapport à la
ça.
BD, et d'avoir donc la satisfaction de travailler en grand format, de ce côté foisonnant, l'univers de Dumas, bon ben, qui est difficile de, enfin que j'adore quoi, qui est
Ouais.
difficile de pas aimer, qui fait rêver, et donc voilà, c'était l'occasion pour moi d'explorer différentes époques. Donc finalement, je me suis retrouvé un peu dans la position de l'enfant que j'étais. Quand je faisais des puzzles avec mon grand-père, j'ai ce souvenir-là. Je pense que c'est de là peut-être est née ma grande patience. Parce
Ouais.
que c'est vrai que dans mes BD, il y a souvent beaucoup de détails.
Beaucoup,
J'aime bien
toujours
construire
soigné.
les architectures, voilà, sur Chartres, autant sur Chartres que la Libération de Paris ou beaucoup d'autres albums. Donc voilà, projet enthousiasmant. Voilà.
Et Bertrand Mathière, lorsque je regarde cette grande fresque dessinée par, par De Noël sous votre conduite, je vois beaucoup de personnages que j'essaye d'identifier. L'enfant, comment va-t-il les identifier si ses parents doutent à côté?
Alors, on a véritablement créé un objet culturel à part entière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un puzzle pour le puzzle, mais bien accompagné d'un support éducatif sous forme de livret qui va permettre de guider, un peu à la manière d'un grand cherche et trouve. Alors pour La Fontaine et pour la comtesse de Ségur, ce sera plus succinct, mais pour Dumas, on prévoit plusieurs pages, entre une dizaine et une quinzaine de pages, pour vraiment mener un exercice de promenade littéraire. C'est-à-dire que il va y avoir bien sûr un retour sur la vie d'Alexandre Dumas, de nombreuses anecdotes à son sujet qui figurent avec l'image sur le puzzle. Et puis après, vous voyez, ce puzzle finalement fonctionne un petit peu de manière spiralaire et chronologique. Il part de la Renaissance avec la trilogie des Valois, la fameuse reine Margot, puis la trilogie des Mousquetaires, la plus connue. Ensuite, nous passons à une trilogie un petit peu moins connue, d'ailleurs qui n'est pas une trilogie puisqu'elle comporte 4 romans qui se passent lors de la Révolution française. Et la dernière, dont nous connaissons vraiment la fin seulement depuis 2005, puisque le dernier roman de Dumas a été découvert en 2005, la trilogie de Saint-Hermine. Évidemment, il existe encore d'autres romans emblématiques comme Le Comte de Monte Cristo. On ne pouvait pas faire un puzzle sans Le Comte de Monte Cristo. Donc, il a sa place à part entière dans cette fresque, ainsi que d'autres clins d'œil à plein de petits romans, notamment La Tulipe Noire, qui est en fait largement méconnue malgré le film d'Alain Delon qui n'a absolument rien à voir. Et puis, Pauline, voilà, on a encore quelques beaux joyaux comme ça qui apparaissent dans le puzzle. Mais en effet, cela nécessite un décryptage. Donc, dans le petit prospectus, vous aurez une numérotation et un guide qui vous permettra finalement d'identifier chaque élément. Vous verrez par exemple la tête de mort du drapeau corse qui fait référence à un roman, Les Frères Corse.
La liaison, notre liaison n'est pas très bonne en ce moment, Bertrand. On va continuer, on va persister un tout petit peu et sinon nous passerons par une liaison par téléphone. Mais continuons un tout petit peu. Ce que je voulais dire à nos auditeurs à ce stade, s'ils ont envie de voir, parce qu'on a envie de se figurer tout ça, c'est pas, on est ancré dans la réalité, dans un objet qui est en train de naître, ils peuvent vous retrouver sur le site ulule.com, ulule.com, Atelier Cyrano. Et là, ils auront les images, ils verront le beau travail de Cécile Guinement, peut-être plus facile pour des enfants plus jeunes. Et ce sera un format un petit peu plus réduit que cette grande fresque de Dumas. Et je vous avais demandé, Bertrand Mathière, le temps, moi j'aimerais bien, pour les parents, les grands-parents qui nous écoutent, le temps moyen, ce que vous avez pu tester pour faire ce puzzle pour un enfant, par exemple, de 10 ans. À la fois ceux de Cécile, donc comtesse de Ségur et Fable de La Fontaine, et puis celui que vous avez fait avec Régis Parenteau de Noël.
Alors, je l'ai testé avec mes enfants, et mes enfants sont assez amateurs de puzzles, donc ont été
donc
rapides.
On va avoir une réponse d'un haut niveau.
Voilà, non, mais ce sont des puzzles qui sont foisonnants avec beaucoup de détails. C'est-à-dire que la difficulté n'est pas absolument énorme dans le sens où vous n'avez pas de grands aplats avec des feuillages. Vous avez très rapidement du détail qui touche l'œil. Ceci dit, voilà, il serait un peu difficile de répondre pour chaque famille. Je pense que ce sont des puzzles familiaux qui s'adaptent finalement à tous les âges et à tous les profils. Des personnes qui veulent vraiment du puzzle très, très foisonnant vont y trouver vraiment leur plaisir parce qu'il y a les explications qui vont à côté. Donc on n'est pas juste dans l'image à reconstituer, mais on va beaucoup plus loin. Pareil pour les fables de La Fontaine, pareil pour Dumas. Vous allez vraiment apprendre quelque chose en plus du puzzle. Mais pour un très bon, un bon amateur de puzzle, normalement, le Dumas, il est fait en 2 jours. Mais il pourra normalement faire la joie de quelqu'un qui est moins initié sur toute une semaine.
Vous confirmez, Régis Parenteau de Noël, vous, quand vous avez travaillé, vous êtes dit « là, je vais leur donner du fil à retordre pour plusieurs jours ».
Oui,
qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que Bertrand a bien pensé. c'est le concept, en fait, c'est que, donc, il faut pas avoir peur du format. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de détails, on peut retrouver, il suffit d'être un peu observateur. Et justement, c'est aiguiser son œil, sa mémoire visuelle. Et on n'a pas plein d'aplats. Donc, c'est à chaque fois des petits détails qui vont permettre de raccrocher tel élément avec tel autre. Donc, je pense que, voilà, bon, après 2 jours, il faut faire un peu durer le plaisir, hein. Peut-être un peu plus, je sais pas.
Voilà. Vous avez en commun, tous les deux, Cécile Guinemont, dont j'aime beaucoup les dessins. C'est toujours très frais, toujours très vrai. Vous avez en commun ce souci du détail vrai. Et vous, on l'a vu avec vous, Honoré d'Estiendorf, Franz Stock, toutes les recherches que vous avez faites. C'est beau, tout ce travail en amont, on ne se rend pas forcément compte. Et puis, une chose très importante, c'est le respect des visages. Visages, à la fois Cécile Guinemont, à la fois vous. Et quand on fait ce travail si méticuleux, qui prend du temps, on regarde les détails, l'enfant s'attache, il perçoit. Dites-nous, de Noël, quand vous travaillez un visage, quel est votre état d'esprit ?
Alors déjà, je pense que mon état d'esprit... Alors déjà, le dessin, c'est presque qu'il y a un côté douce transe. Ouais. Ça se rapproche de la méditation, quelque part. Donc, dans mon dessin, alors c'est vrai que j'ai un dessin, comment le définir, plutôt ligne claire. J'essaie d'être le plus lisible possible, tout en ayant un niveau de détail conséquent, mais justement les deux vont ensemble, finalement, je pense.
L'un permet l'autre, en fait.
Rend digeste l'ensemble, on va dire, peut-être. Le fait d'aller à l'essentiel, de choisir un trait plutôt que 3 ou 4. Voilà. Et après, pour les visages, j'essaye... alors, soit je m'inspire de... en l'occurrence, j'ai un peu regardé du côté des gravures, mais je n'ai pas voulu faire du copier-coller. Hein. J'essaye de... je suis sensible à la beauté aussi, donc je ne suis pas trop dans la laideur ou je ne cherche pas...
Cherchez pas à choquer.
Oui, non, c'est pas le but. Donc, des visages, j'aime bien avoir des expressions, mais là, on est plutôt... j'ai pas forcément cherché l'expression sur cet exercice-là.
Ça n'était pas l'objet.
Qu'on identifie tout de suite, quoi.
Louis XVI, Marie-Antoinette, voilà. On les identifie, voilà. On les retrouve. On n'est pas dans une communication.
Voilà. Moi qui aime bien faire du lien, ça m'a permis le puzzle là, qu'a lancé Bertrand de faire un petit clin d'œil à notre BD Catlino, chez plein vent. Parce que les guerres de Vendée sont évoquées, et puis Bertrand étant en Vendée, voilà, c'est...
Puisqu'on parle de l'ancrage, il y a un aspect qui va toucher nos auditeurs de Radio Courtoisie, c'est le fait que c'est une BD 100% française. En quoi est-elle 100% française, Bertrand Mathière ?
Ce sont des puzzles entièrement français, dans le sens où ils sont totalement enracinés en Vendée et fabriqués en France, dans la Drôme. Les deux dessinateurs, évidemment, sont français, je ne vous le cache pas. Mais les puzzles, finalement, il est assez difficile d'en fabriquer de pur français pour avoir un coût abordable. Et pour moi, il était absolument indispensable de garder ce fil rouge. C'est vraiment un engagement de notre part. Nous appelons l'atelier Cyrano, je dirais que les masques tombent tout de suite. Nous savons que nous sommes nous levons notre drapeau en même temps que notre logo. Il s'agit donc véritablement d'une morale, d'une éthique à tenir, et donc les cartonnages Vaucanson seront les fabricants de ces puzzles. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Rien ne sera fait en dehors de territoire français. C'est imaginé en Vendée, dessiné en France et fabriqué en France.
Alors nos auditeurs se disent peut-être je vois que ça va être un outil magnifique, mais il va être hors de ma bourse. Parce que beaucoup de puzzles sont fabriqués en Asie et ne sont pas très chers. Et en fait, c'est le moment de les rassurer. Moi, je suis très épatée par le prix alors c'est peut-être un prix de lancement que vous faites, mais dites-nous les prix des contreparties, puisque pour l'instant, donc, c'est de la précommande. C'est un financement participatif. Chers amis, si vous croyez un petit peu dans justement le travail minutieux, l'attention, le travail d'artisan, j'ai envie de dire, c'est le moment de soutenir. Hein. C'est pour ça que je vous en parle, campagne Ulule, oui, c'est le moment de soutenir. Et vous ne le faites pas dans le vide, puisque vous recevrez les puzzles. Alors Bertrand Mathière, faites le commercial et dites-nous pour 30 euros, pour 50, pour 80, dites-nous tout.
Oui, en effet, acheter français, c'est pas uniquement un slogan et ce qu'on peut partager à table en famille. Oui, là, vous pouvez le concrétiser vraiment pour un prix qui est relativement modique dans le secteur de la librairie et du jeu. Un puzzle sur La Fontaine ou sur La Comtesse de Ségur de 500 pièces avec son livret explicatif coûte 30 euros et le puzzle de 1000 pièces coûte 35 euros. Il fait à peu près le double en format. Ce sont donc des prix qui ne sont pas complètement prohibitifs. Là, ils s'adressent à tout le monde et sont vraiment des objets culturels à part entière. Donc, c'est en effet un vrai choix. Je pense souvent à des gens qui font leurs cadeaux un peu au dernier moment, avant Noël ou avant les anniversaires, qui n'ont pas forcément la bonne idée. Là, vous avez un produit purement français, culturel, de transmission. Qui est un objet durable, hein, qui peut se réutiliser à l'infini et qui donne un véritable contentement. Je trouve qu'on n'est pas dans l'achat impulsif
Du dernier moment.
de l'objet qu'on trouve au dernier moment. Là, vous avez quelque chose de beau à offrir à vos enfants, à vos petits-enfants et même à vous-même. Il y a de plus en plus en fait d'amateurs de puzzle depuis la crise du Covid. C'est quelque chose d'incroyable. Le puzzle a le vent en poupe depuis à peu près 4 ans.
Et c'est assez, c'est un beau, une belle aide que vous apportez aux familles. On peut déjà penser à ces cadeaux de Noël. On peut aussi penser à l'été. Moi, je pense à ces retrouvailles estivales. Et vous l'avez évoqué dans votre introduction, cette table dans un coin avec un puzzle auquel chacun vient contribuer. C'est pas du mythe. Et vraiment, c'est quelque chose qui porte des fruits très concrets de Noël. Vous disiez, Régis, vous disiez que lorsque vous étiez enfant, vous faisiez des puzzles avec votre grand-père et c'était des puzzles qui duraient très longtemps?
Oui, alors je sais plus, mais je crois que c'était facilement 2000, je sais pas si c'est jusqu'à 5000 pièces, mais il y a eu des puzzles très grands avec beaucoup de sièges, je me souviens, des chevaux, des châteaux, évidemment, comme dit Bertrand. Voilà, mais surtout, ce que j'étais en train de penser, c'est que le puzzle mis sur la table, bah, ça crée du lien entre générations, on peut discuter, ça peut être un très bon point de départ de poser pour les enfants des questions aux plus grands, ou d'évoquer tel roman ou telle fable. Voilà, ça me paraît très positif tout ce que ça apporte.
Et votre campagne a démarré très très vite. Vous avez eu en quelques semaines 80% du montant que vous escomptiez. Je vois que ça monte. Vous avez beaucoup de contributeurs. Vous avez donc des projets, Bertrand Matière. Ça va pas s'arrêter là. On va pas
Ah
s'arrêter
non.
à la comtesse de Ségur, Jean de La Fontaine, Dumas. Très beau choix de départ, hein.
Ah non, mais on a un catalogue à développer absolument incroyable. Imaginez Jules Verne en fresque, imaginez la comédie humaine de Balzac, la pastorale des Santons de Provence, Molière, enfin, en France, c'est une caverne d'Ali Baba, on peut y rester des années. Et alors, ça sera déployé en plus dans plein de formats, en papeterie, notamment coloriage, carte postale, affiche. Moi, l'affiche de Dumas en noir et blanc, serait magnifique.
C'est là où vous allez étendre Atelier Cyrano. Ce ne sont pas que des pubs, c'est un des puzzles, c'est un univers de papeterie. C'est ça. C'est à ça que vous songez aussi.
Papeterie d'univers, ça évoque en effet le fait de déployer ces univers qu'on retrouve dans les puzzles dans le secteur de la papeterie. C'est-à-dire que ce soit du beau papier à lettres, on n'en trouve quasiment plus, des belles cartes postales, des marque-pages, des objets qui vous accompagnent, qui sont durables, que vous pouvez aussi encadrer. Tout cela va faire vivre ces univers par petits détails, par petites touches. Et voilà un petit peu le cadre de l'atelier Cyrano. Il ne s'agit pas uniquement de faire des puzzles, mais de partir d'un univers que nous déployons en puzzle pour ensuite pour qu'il s'offre ensuite en objet de papeterie.
Un auditeur, mais que je remercie. La question est un peu technique. Elle va, à mon avis, susciter beaucoup de belles réponses de vous deux. Cet auditeur nous dit, sur quels critères sont dessinées les lignes des pièces du puzzle? Quelle est la réflexion sur le contour des pièces dans l'image? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé ou bien vous avez quelqu'un qui a un format de pièce prédécoupé, dites-nous. C'est très intéressant.
Alors,
j'ajoute une petite anecdote personnelle. J'avais un grand-père qui aimait les puzzles, qui faisait les puzzles sur du bois et qui avait une machine à découper les puzzles, vous voyez, avec une lame verticale. Et je me souviens d'avoir vu des pièces, mais d'une complexité. Je pense qu'il s'amusait comme un fou à faire des angles, etc. Alors, comment on fait aujourd'hui?
Alors, les premiers à avoir fait ça en France, ce sont les puzzles Miro, la marque Miro en France. Et en fait, le vrai puzzle, en effet, se découpe à la scie avec des pièces qui sont pratiquement uniques. Aujourd'hui, en France, il y a un fabricant qui fait ça. Ce sont les puzzles Michel Wilson. Mais sinon, non, la plupart des fabricants utilisent des gabarits qu'il est très compliqué de créer. Les cartonnages Vaucanson ont créé les leurs avec des pièces bien définies. Mais de notre côté, nous n'avons pas la main là-dessus. En effet, quand vous avez des artisans qui font, je crois que les puzzles Michel Wilson, ils sont découpés 5 par 5 seulement, à la scie. Là, on a quelque chose qui est vraiment quasiment de l'objet d'art. Donc là, non, nous restons dans un produit quand même qui est imprimé et découpé par une machine spéciale, mais dont les contours, en effet, ont été conçus par le fabricant lui-même. Vous ne trouverez pas le même format chez d'autres fabricants.
Régis Parenteau de Noël, en dessinant, en colorant, colorisant, comment on peut dire d'ailleurs?
En colorisant.
Est-ce que vous aviez ça à l'esprit? Est-ce que vous aviez un peu le gabarit dans la tête?
Non, alors pas justement ce que dit Bertrand, là, c'est heureusement, hein, ça a été un vrai casse-tête. J'ai pas dessiné en fonction de la forme des pièces du puzzle. Hein, ce serait... Alors peut-être que certains le font, il y a des techniques, mais comme disait, ce serait un objet d'art. Hein, voilà,
mais vous aviez quand même, je vous coupe, pardon, ouais. C'est pas la première fois, je vous prie de m'excuser, mais Régis, vous aviez quand même en tête la taille des pièces dans votre puzzle de 1000 pièces, un petit peu?
Approximativement. J'imagine quand on dit 1000 pièces, effectivement, je vois des petites pièces, de petites pièces. Quoi.
Ouais.
Voilà. Mais bon, dans mes souvenirs de puzzle, il y a longtemps que je n'ai pas fait de puzzle.
Mais excellent. Donc, je rappelle à nos auditeurs que je reçois Bertrand Matière, qui est le fondateur de l'atelier Cyrano, puzzle éducatif et papeterie d'univers, et Régis Parenteau de Noël, qui signe de Noël ses bandes dessinées, dont nous allons parler ensemble pour terminer cette partie d'émission. Nous évoquons, alors déjà on a tous beaucoup d'images dans la tête sans doute, ces trois premiers puzzles proposés par l'atelier Cyrano en pré-vente sur Ulule, ulule.com. J'engage vraiment nos auditeurs à s'y rendre pour aller voir. Nous avons les Fables de La Fontaine et la Comtesse de Ségur sous les crayons de Cécile Guinement, que nous saluons si elle nous écoute. Je rends vraiment hommage à son très beau travail. Et puis, l'univers de Dumas, avec Régis Parenteau de Noël, qui est dans le studio. Voici pour vous redire, chers amis, comment vous pouvez rencontrer toute cette belle création. Allez voir et surtout, allez soutenir cet envol. Enfin, bravo, on est dans une période où tout se referme un peu, chacun agit avec prudence. Et vous, Bertrand Matière, vous y allez carrément? Vous lancez un atelier Cyrano?
Le but, c'est de réenchanter la France, de la transmettre, de faire finalement ce qu'ont fait d'autres générations avant nous. On ne peut pas laisser les choses comme ça s'éteindre, s'étioler. Inventons de nouveaux supports, réinventons le puzzle qui était parti en désuétude. Là, je suis persuadé, en tout cas avec les échos que j'en ai depuis que nous avons démarré il y a 2 mois, que nous avons touché au bon endroit les gens qui attendent du beau, qui attendent finalement de pouvoir transmettre ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Et le puzzle est un beau support pour ça.
Magnifique.
Peut-être Bertrand, juste préciser la date, jusqu'à quand a lieu le financement, la campagne Ulule, Bertrand.
Alors la campagne Ulule s'arrêtera le 24 mai, donc les commandes sont déjà passées, là la fabrication commence dans la Drôme, vous avez jusqu'au 24 mai pour précommander, ça nous aide beaucoup tout simplement parce que ce préfinancement nous permet vraiment d'alimenter, de soutenir une partie de la fabrication dès le départ. puisque c'est quand même un sacré budget, et je pars tout seul en Vendée avec ça. Et donc, finalement, il y a un véritable soutien à un projet purement français, purement culturel, qui permet de réenchanter la France. Et c'est un acte, entre guillemets, militant que l'on vous propose.
Bien sûr, je suis sur la page en ce moment, donc je rappelle à nos auditeurs, je crois qu'il ne faut pas hésiter, il faut commander les trois. 85 euros, vous disiez, on prépare ses cadeaux de Noël, voilà, et puis à mon avis, quand on en aura fait un, on aura tout de suite envie de faire le deuxième. 85 euros pour soutenir cette belle initiative, le lancement d'une maison d'édition indépendante. Hein, je ne sais pas si on se rend compte. Donc oui, c'est un soutien dans le combat culturel. Je vois que ça monte. Hein. Voilà, vous allez atteindre le plafond que vous vous étiez fixé de 3 500 euros, mais que l'on peut largement dépasser.
Nous espérons le dépasser, en effet, amplement.
Pour
Nous avons
soutenir
encore
tous les beaux
28
projets.
jours.
Vous nous diriez un petit peu ce qui vous trotte dans la tête pour la suite comme sujet, ou vous
Alors
préférez pas?
voilà, je dirais que pour Noël, la pastorale des Santons de Provence ne fait plus que trotter. Dans les univers plus, j'irais plus littéraires, Jules Verne a quand même une de mes préférences. Et en fait, toute la littérature française va être un grand terrain de jeu et d'idées à déployer. Finalement, ce qui bloque, ce sont souvent les finances, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il va falloir déployer peu à peu. J'y vais progressivement. C'est la fable du lièvre et de la tortue pour rester dans le sujet. Nous y allons doucement, mais sûrement pour essayer de poser les fondations sur du roc et non sur du sable. Essayer vraiment d'asseoir un beau catalogue qui, dans 20 ans encore, sera là pour émerveiller petits et grands.
Merci, vous nous donnez énormément d'espérance. Tout cela est très joyeux, très beau. Voilà, il s'est marqué par le beau, ce souci de respecter les enfants, de former leur goût peut-être. Régis Parenteau de Noël, on forme le goût?
Oui, ça fait partie. Ben, je pense que la démarche de Bertrand, il y a un rôle éducatif, ludo-éducatif, très important, pédagogique, comme il l'expliquait avec le livret, avec d'aller plus loin. Ben, oui, justement, d'éveiller la curiosité. Si on peut revenir au livre, ça peut être bien aussi.
Et oui,
Voilà,
moi je pense
donc
que c'est un très bon passage.
voilà,
C'est
c'est
la concentration,
un
c'est
travail
le
de
goût.
passeur. Et je pense que même par la BD, moi, c'est mon travail aussi, hein, de passer. On s'est rejoint là-dessus avec Bertrand, je pense. Hein, une
Vous
vision
êtes
de passeur.
passeurs, passeurs tous les deux. Bertrand Matière, nous vous remercions infiniment d'avoir pris du temps pour venir nous
Merci à
présenter
vous.
cette très belle initiative à qui on souhaite bon vent et dont on
Merci
reparlera.
beaucoup.
Merci beaucoup, Bertrand. Et je vais
Merci Valérie,
rester.
merci Régis.
Nous allons rester, chers amis du Libre Journal de la Transmission, avec Régis Parenteau de Noël, qui signe de Noël ses bandes dessinées. Régis, vous étiez venu déjà à ce micro, on a parlé de Franz Toc, Emmanuel d'Estienne-d'Orves. Ça fait longtemps que je.
Honoré, honoré de ça.
Honoré, qu'est-ce que j'ai dit, Emmanuel?
Emmanuel, non, mais pas
Ah mon
toi.
Dieu, le lapsus. Oui, j'aime beaucoup votre. Vous disiez, vous êtes dans la tradition de la ligne claire, cette attention au visage, cette attention aux détails, notamment lorsque vous faites une BD historique, vous vous renseignez, vous travaillez. Nous saluons aussi Jean-François Vivier, avec qui vous avez souvent travaillé, et c'est vraiment un duo Vivier de Noël, les amis. Quand vous voyez une BD Vivier de Noël, vous pouvez y aller.
On a
Mais
travaillé
oui,
près de 10 ans ensemble.
10 ans
Pas
ensemble.
loin.
Mais merci de nous offrir ces supports culturels de qualité, nous qui les cherchons pour nos familles, pour tous ceux qui nous suivent. Alors, quelles sont vos dernières réalisations en matière de BD, Régis Parenteau de Noël?
Alors, il y a eu l'histoire de la cathédrale du Mans, sur pour Libra Diffusio, la cathédrale du Mans. Donc, un éditeur Libra Diffusio, un éditeur local, un éditeur du Mans. Donc, c'est en fait en dédicaçant au salon du livre Faites lire du Mans que mon travail a été remarqué par Pascal Mariette, qui a créé cette bande dessinée-ci. Et donc, il a fait venir l'éditeur qui a remarqué ma BD de Chartres. Et
Ouais.
en voyant ce que j'avais fait sur Chartres.
Chartres, on en a parlé ici. Hein. Moi, je l'ai vraiment soutenu. Enfin, c'est une des meilleures BD que j'ai lues dans ces
C'est
dernières
gentil.
années. C'est
Ah ben
extraordinaire.
ça me fait plaisir parce que je pense que c'est un des albums avec Jean-François dont je suis le plus fier.
avec Jean-François Vivier.
Vivier, oui. Ouais. Ça a été un énorme travail, mais donc je crois que c'est notre seul album qui a 5 éditions différentes.
Ah oui.
Parce qu'on a fait une première édition en 2022, il y a eu une couverture alternative, il y a eu un tirage limité où on voyait les crayonnés en grand format, avec, qu'on peut trouver sur leslibraires.fr d'ailleurs. Hein.
Ah oui.
Les planches ancrées, hein, mon travail en noir et blanc.
Pour les collectionneurs, 5. Hein.
Après, pour le grand public, il y a eu une édition alors, pour les touristes aussi en anglais, et surtout l'édition du millénaire, donc pour les 1000 ans de la crypte. Donc là, on a rajouté des pages, on a étoffé ce qui me plaît bien, parce que moi, j'aime bien avoir des albums assez denses et que les gens en aient pour leur argent, comme on dit, enfin, être assez généreux sur le dessin. Donc ça a permis d'explorer, de montrer le trésor de la cathédrale, de parler du voile de la Vierge, qui est quand même le prétexte au pèlerinage qui est à la naissance du pèlerinage à la cathédrale de Chartres.
Vous voyez, quand je vous entends dire ça, quand on dit que c'est un travail d'artisan, hein, l'artisan qui remet sur le métier, qui se dit y a moyen d'améliorer, d'en donner plus, mais il y a tellement d'amour derrière tout ça. C'est ça que nous sentons. Hein.
Ah oui, mais ça, je le revendique. Hein. Je me sens vraiment comme un artisan qui aime son travail. De toute façon, ça serait compliqué de ne pas aimer ce qu'on fait, de le faire comme ça. Donc, je pense que c'est la condition première, c'est d'être passionné par ce qu'on fait et d'aimer. Puis, et puis la volonté de... Et puis surtout, de ne pas travailler pour soi, de travailler... c'est-à-dire que c'est pour être lu. Donc d'où j'aime bien mon goût de la ligne Auclair. Et puis, la satisfaction d'avoir des lecteurs vraiment de tous les âges, de 8 à 88 ans.
C'est l'avantage de la bande dessinée.
Comme pour les puzzles.
Comme pour les puzzles, la bande dessinée se partage entre les générations. Évidemment, on sait bien qu'il y a de la BD adulte et qui doit strictement rester réservée aux adultes. On sait bien ses codes, etc. Mais la BD historique, telle que vous la concevez, c'est un passage aussi. Là aussi, vous êtes passeur. Hein.
Oui. Il faut faire des choix. Alors, dans les textes, par rapport à la cathédrale du Mans, donc c'est le scénariste Pascal Mariette est un historien. Et c'est un historien de la cathédrale, du Mans en général d'ailleurs. Et donc, on s'est heurté aussi à cet écueil. C'est-à-dire que quand on travaille avec un historien, il veut dire beaucoup de choses.
C'est ça.
Et donc, on est obligé de faire des choix. Donc, on a vraiment travaillé avec des réunions. On s'est vu 3 fois par 12 pages. On a fait des réunions pour faire le découpage graphique. Voilà. Comment passer du texte écrit à l'image? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on voilà de trouver le bon équilibre.
C'est la grande difficulté. Moi, je n'aime pas du tout les. Enfin, je n'aime pas. C'est pas mon petit goût personnel, mais je vois bien que les BD qui veulent en dire trop, on sort presque du genre de la BD. Hein, ça devient autre chose, et c'est un défaut. La qualité, c'est d'avoir su faire des choix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'image nos auditeurs qui sont aussi qui nous voient. Et on imagine tout le travail pour épurer.
Oui, voilà. Alors aussi, je dois reconnaître que Pascal m'a grandement aidé, parce que le délai était très très court, avec sa connaissance historique pour les évolutions, les différentes évolutions de la cathédrale. Donc il me faisait des croquis, qui me donnaient une assise, un début de construction pour travailler chaque planche, parce que je crois bien que je n'ai pas une planche sans architecture. Bon, c'est le personnage principal de la BD.
Beaucoup d'architecture.
Hein. Beaucoup
Et voilà. Pour revenir à nos puzzles, Cécile Guidement a une formation d'architecte au départ.
Ah oui.
Vous voyez, je trouve que ça se sent. Bon, vous on voit que vous aimez. Hein, dans toutes, vous négligez jamais ce cadre. C'est assez extraordinaire. Pendant que j'y pense, puisque vous dites, bah oui, je suis artisan, je vais dédicacer et je rencontre un auteur qui me présente à un éditeur. On voit tout ce travail qu'il y a autour de votre métier. Métier dont vous vivez. Vous ne faites pas ça à côté d'autre chose.
À
temps plein. Donc, bravo, parce que j'imagine ce que ça représente. Et donc, il y a un petit faisceau d'activités. Là aussi, lien avec nos puzzles de l'atelier Cyrano, le dessin original du monde de Dumas va être proposé à la vente
à Drouot. Par Couteau Bégari, une vente BD illustration. Oui.
Donc, le samedi 30 mai, peut la retrouver sur Drouot Online, vos chers auditeurs. Suivez ça.
À partir de 11h, exactement.
C'est aussi une manière. Et puis, vous ne faites pas que de la BD historique, que de la BD régionale. Vous avez aussi des commandes.
Oui, ouais.
C'est ça. Je trouve que c'est intéressant pour nos auditeurs, parce que on peut avoir des jeunes qui ont envie de s'orienter vers ces métiers-là. et ils peuvent se dire, donnez-la moi, je vais peut-être essayer de mon côté. Ils peuvent se dire, oui, mais bon, mon fils, ma fille ne gagnera pas sa vie. Quel est vraiment tout, que représente ce métier? Vous voyez, je trouve que c'est important qu'on parle de tout ça. Donc là, vous avez fait un travail pour...
Alors là, c'est une commande. Donc, je suis passé par une agence avec qui j'avais déjà travaillé. J'avais fait des dessins, alors plutôt de publicitaire ou de communication. Par exemple, des dessins pour le CNES, le magazine sur la sonde Rosetta Philae. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Et donc là, il m'a recontacté pour travailler pour une entreprise, donc Émile Frey France, distributeur automobile. Et donc, cette entreprise souhaitait communiquer par la bande dessinée. Donc là, l'agence a vraiment travaillé le scénario avec l'entreprise. Et donc, elle a été vraiment l'intermédiaire entre moi et l'entreprise. Et j'ai mis en image. Donc, on voit en fait l'entreprise. Et en même temps, il y a un peu de science-fiction. On se projette dans l'avenir. Et donc, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. Ça me changeait des cathédrales radicalement. Avec un délai, c'était à nouveau un défi, parce que j'ai dû faire en 2 mois, en 44 jours, 22 planches. Donc, c'était aussi très, très intense.
Ah ouais.
Voilà.
On voit le rythme. Ouais. Et puis également, vous vendez vos planches originales.
Ouais.
Et
oui,
comment on fait pour vous rejoindre d'ailleurs de Noël?
Le canal essentiel, donc souvent je passe par Couteau Bégari, donc la vente online, où j'aurai d'autres dessins d'ailleurs, en dehors de Dumas.
On va regarder, bien sûr.
Ouais, sur le site de Drew Online.
Oui.
Et alors après, oui, on peut me joindre directement via les réseaux. Alors il y a le Régis Parent de Noël, dit de Noël, Facebook. Il y a mon Instagram, de Noël Dessinateur BD, pour différencier de l'éditeur.
Que nous allons mettre sur la page de l'émission. Il y aura ce lien, chers auditeurs, si vous voulez retrouver De Noël par son compte Instagram. Bien sûr, c'est facile. Hein. De Noël, il n'y en a pas plusieurs. Mais il sera sur la page de l'émission de Radio Courtoisie. Vous avez aussi des rendez-vous dédicaces, là, au printemps?
Et oui, alors, la prochaine qui arrive très, très bientôt, justement, on parlait de la Vendée, j'y serai, le printemps du livre à Montaigu, je serai les 9 et 10, tout le week-end.
Sur le stand de la librairie Siloé de la Roche-sur-Yon.
Voilà, donc j'espère tous mes albums, a priori, Kathleen sûrement, Le Mans, le Franz Stock, qui a été réédité cette année.
Franz Stock. Extraordinaire. Réédité aussi. On pourra trouver Chartres également
J'espère aussi, c'est parfois moins évident parce que c'est une édition locale. C'est mon scénariste, Jean-François Vivier, qui est éditeur de cet album. C'est les éditions L'Atlantide. Hein. On peut le commander sans problème par Internet et tout. Mais après, en dédicace, par rapport au libraire, c'est bon, j'espère qu'il sera là.
Oui.
C'est pas toujours évident, mais quand je peux le dédicacer, je le dédicace volontiers.
Honoré d'Estienne d'Orve.
Ouais, Franz Stock. Qu'est-ce qu'il y a? Maximilien Kolb,
extraordinaire.
J'ai vu qu'il y avait un film qui va sortir.
Il va falloir qu'on aille le voir. Le séminaire des barbelés, etc. Ah oui, j'ai une question aussi qui m'a été posée pour vous, Régis. Est-ce que vous intervenez dans des collèges, lycées? Est-ce qu'on peut vous demander, justement, c'était sur cette question-là. Est-ce que vous pouvez venir raconter et parler aussi de votre travail? On peut vous contacter pour ça?
Alors justement, vous parliez des différentes facettes de mon travail. Il y a donc la BD, effectivement, les illustrations pour la communication, mais aussi une part que j'apprécie beaucoup, c'est les rencontres scolaires, centres de loisirs. Enfin, j'en ai fait quand même une bonne vingtaine. Alors paradoxalement, ça a commencé avec le Covid en 2020, parce que les élèves ne sortaient pas. Donc il fallait, alors on était avec le masque. Mais ça m'a beaucoup plu, l'expérience m'a beaucoup plu. C'était avec des cinquièmes. C'était un vrai atelier dessin autour de la BD, mais ça peut être juste des rencontres. J'ai eu une proposition récemment à Rueil-Malmaison, une école, pour parler de Franz Stock.
Nous avons notre réponse et j'espère même que ça peut susciter des rencontres. C'est excellent à tout point de vue. Donc les 9 et 10 mai, vous serez à Montaigu pour le printemps du livre de Montaigu. Le samedi 30 mai, vous serez à Franklin, à Paris, dans le 16e. Le samedi.
Oui.
Les 4 et 5 juillet au festival BD d'Altia, Oustaritz, vous êtes un peu basque ou...
Alors en fait, c'est par le couple Bruno et Marie-Camille Borde, qui habitaient à Lausanne, mais qui se sont installés au Pays Basque parce qu'il avait ses racines là-bas. Et c'est un grand collectionneur de BD et de dessins de Pierre Joubert, entre autres
Ah,
d'ailleurs.
oui.
Et donc, on a très vite sympathisé. Et puis, j'allais chez eux. Et puis, au fil des conversations, j'ai dit, un salon BD, ce serait quand même une bonne idée. Et finalement, ça s'est concrétisé il y a 2 ans. Donc, c'est la troisième édition dont je vais faire l'affiche. La troisième édition. Et donc, c'est à Altea, c'est à Ustaritz exactement, au Pays Basque. Et donc, c'est vraiment je recommande chaudement, parce que même pour nous, les auteurs, on a une vue sur le Pays Basque, c'est sur les hauteurs.
Extra.
C'est un moment privilégié. Ils sont charmants, on est très bien accueillis. Et ça attire pas mal de monde.
Donc 4 et 5 juillet 2026.
Voilà.
Et puis 22 août, vous serez en Bourgogne.
Oui. Toussy historique, à Toussy. À
Toussy.
Toussy, donc pas très loin d'Auxerre, je crois.
Ça doit être dans l'Yonne.
Voilà,
Oui.
et donc, alors c'est une journée, donc c'est le samedi, et donc pour dédicacer la cathédrale du Mans, et puis mes autres albums, quelques autres.
Bon, bah
Ouais,
écoutez,
voilà.
extraordinaire. Je suis vraiment ravie que vous soyez venu une nouvelle fois. C'est toujours une grande joie,
merci.
véritablement.
Merci
J'ai
bien.
beaucoup d'admiration pour ce travail plein d'amour. Oui, c'est vraiment le mot que j'ai envie de retenir. Merci beaucoup de nous avoir présenté avec Bertrand Matière ces puzzles éducatifs dont on attend beaucoup. Moi, j'avoue que j'attends les miens. Vraiment, je les ai commandés cette semaine et je suis ravie de les avoir pour l'été. Nous suivons tout ce que vous faites. Nous suivons votre travail. Nous pouvons vous retrouver par Instagram de Noël. Merci infiniment d'avoir été avec nous
Merci.
à Radio Courtoisie.
Merci à vous.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers amis du Libre Journal de la Transmission, nous voici en compagnie de deux jeunes femmes qui viennent nous parler de la formation pour être efficace dans le combat culturel pro-vie. Vous êtes héritières de combats qui ont été menés par des générations précédentes. Et je vais vous dire, en préparant l'émission, je pensais à tous ceux qui, ici même, dans ce studio, ont mené ces combats depuis si longtemps. Je pensais à Jean Ferré, à Serge de Becketch, au professeur Lejeune qu'on a entendu à ce micro. Moi, ça m'a formé, ça a contribué à me former. Vous voyez, nous sommes héritiers de tout cela. Je pense aussi à tout ce qui s'est fait par la Marche pour la vie depuis des années. Et vous venez venez nous retrouver toutes les deux, Constance de Massia. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Constance. Vous êtes étudiante en master de philosophie et vous êtes cofondatrice de Le Jeune Académie et responsable du pôle cohésion. On va en parler tout à l'heure plus particulièrement. Merci. Et puis Marie-Lys Pélissier, que voilà. Nos auditeurs connaissent parce qu'ils vous entendent dans Ligne Droite le matin. Mais j'ai la grande fierté peut-être de vous avoir reçue en première à Radio Courtoisie. Oui. N'est-ce pas ? Marie-Lys Pélissier, vous êtes fondatrice de la Le Jeune Académie, vous êtes porte-parole de la Marche pour la Vie. On vous voit beaucoup dans les médias et je pense souvent à vous dans ce combat-là, parce qu'il vous met en première ligne avec tout ce que ça peut comporter. Et nous allons d'ailleurs en parler. Vous êtes venues toutes les deux nous présenter ce qui va se passer cet été, une université d'été, un camp d'été, de formation. Votre objectif par la Le Jeune Académie, c'est de relier, de former, de lancer dans la résistance des jeunes qui sont prêts à témoigner, à agir, mais qui sentent leurs limites. Et vous les prenez tels qu'ils sont au départ. C'est peut-être à vous, Constance de Massia, que je vais m'adresser en premier, parce que sur le site Le Jeune Académie, chers amis, je vous engage à aller tout de suite sur le site pour avoir des images et des liens. Eh bien, on voit que pour participer à votre camp de formation, il faut se présenter tel qu'on est, avec les talents que l'on a. Je trouve ça très beau.
Exactement, c'est vraiment la particularité de la Le Jeune Académie. C'est vraiment cette université d'été de la Marche pour la Vie, montée par des jeunes pour des jeunes, avec cette phase un peu plus théorique, et puis cette phase pratique, à savoir vraiment partir de chacun, de ses talents, de ses capacités, et à partir de ces talents-là, s'engager dans le combat pro vie.
Vous dites aux personnes sur ce formulaire de contact, qui est une préinscription, quel talent penses-tu pouvoir offrir au combat pro-vie ? D'une certaine manière, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui a... ça s'adresse à quelle tranche d'âge ?
18-27.
18-27. Ben, finalement, c'est peut-être une question qui ne s'est jamais vraiment posée. Peut-être il va se la poser pour la première fois, Constance de Massia.
Eh bien, exactement. Et on les accompagne quand même. Et pour les aider, on commence à la Jeune Académie en leur faisant passer à un test de personnalité. Et puis, en fonction de ce test de personnalité, on va les orienter vers des ateliers qui auront lieu l'après-midi. Donc, que ce soit des ateliers de communication, de débat, l'art du débat, ou alors encore de montage vidéo ou d'écoute aussi.
Et cette partie-là, un peu psychologique, se connaître pour mieux s'engager, Marie-Lys Pélissier, c'est une intuition que vous avez eue dès le départ ou c'est venu avec l'expérience ?
Alors, c'est pas mon intuition, mais elle a été là dès le départ. C'est notamment une intuition d'Émile Duport, qui a été un des initiateurs aussi de la Jeune Académie, un des penseurs. Et en fait, c'est sa conviction qui nous a livré dès la première, je me rappelle, la première intervention de la première Jeune Académie. C'est lui qui a pris la parole, parce que sa conviction, qui est devenue la nôtre, c'est qu'en fait, pour servir une cause, et surtout une cause difficile comme celle du combat pour la vie, il faut le faire avec ses talents et aimer en fait le faire, parce que évidemment c'est pas drôle tous les jours, et le fait de pouvoir développer ses talents, de pouvoir trouver sa place vraiment dans ce combat-là, nous aide à tenir sur la durée. Et surtout, moi ce que j'ai vu beaucoup, hein, c'est que les jeunes venaient souvent nous voir et viennent encore me voir en me disant « bah oui, c'est une cause qui me touche ». Oui, moi, ça me révolte, l'avortement. Oui, je veux faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Mmh. Et puis, ils me disent, mais moi, je me vois pas aller parler au micro de Radio Courtoisie. Je me vois pas, je peux pas m'exposer en raison de mon métier ou de mes études. Comment je peux faire ? Et là, nous, on veut explorer toutes les manières de prendre place dans ce combat.
Je disais en introduction que vous êtes porte-parole de la Marche pour la Vie. Vous êtes très investie dans l'organisation de ces temps forts publics, avec tout ce que ça comporte. Il y avait la Marche pour la Vie à Lyon ce week-end. Et comment cela s'est-il passé, Constance de Massia ?
Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait pas mal de monde. Et avec une très bonne ambiance, on voit quand même des jeunes de plus en plus motivés, de plus en plus engagés. et qui ont vraiment ce désir de défendre la vie.
L'ambiance à Lyon en ce moment, c'est, vous l'avez senti comment autour de ce sujet? Parce que c'est assez explosif là-bas. On a tous en mémoire le drame de la mort de Quentin Doranque. Est-ce que ça a imprégné la marche pour la vie de cette année à Lyon?
Alors, ça a imprégné, je dirais, plutôt l'avant Marche pour la vie, où certains avaient peur, justement, des rapprochements qu'il pouvait y avoir. Et sur le parcours prévu de la Marche pour la vie, nos amis pro-avortement avaient tagué et collé des messages comme « les nazis étaient pro-vie », voilà, « vive l'IVG », etc.
C'est l'inversion de
l'inversion
de
totale,
la
bien
vérité,
sûr.
Des la mots, de la pensée. Ça fait partie, justement, la manipulation par les mots, hein, l'inversion tout le temps, ça fait partie, j'imagine, du fond de votre travail lorsque vous formez des jeunes. Oui. Détecter l'imposture et y répondre.
Oui,
comment on fait? Dites-nous, donnez-nous des clés parce que nous sommes tous face finalement à ça dans nos vies de témoins.
On essaye vraiment de leur dire partez de la personne que vous avez en face de vous. Alors, bon, vous avez une personne qui pense comme ci, qui pense comme ça. OK, interrogez-la. Oui, interrogez-la, pardon. Et c'est vraiment en posant des questions aux gens, en fait, qu'on se rend compte que parfois, ils ne sont pas si d'accord avec ça, avec ce qu'ils défendent. Et moi, je me souviens d'avoir discuté avec une dame qui, au début, arrivait en me disant je souffre pas du tout d'avoir avorté, toutes ces choses-là. Et puis, plus on a discuté, plus elle me disait oui, j'ai vraiment tué mon bébé et je ne l'aurais pas fait si j'avais été plus soutenue.
Marie-Lise Pellissier, qu'est-ce que vous voudriez ajouter là-dessus?
Effectivement, sur ce que dit Constance, donc nous, on dit à chaque fois aux jeunes, déjà sur ces sujets, c'est très sensible. Donc, faisons très attention aux mots qu'on utilise. Il ne s'agit pas de diluer la vérité, mais toujours de bien s'adapter, de prendre en compte le fait qu'en face de nous, on risque d'avoir une personne qui a déjà été très blessée. Et quand vous parlez de la définition et les mots, etc., effectivement, moi, ce que je dis toujours aux jeunes, et on a toutes les deux fait de la philosophie, alors
mais
on
oui,
y tient.
J'y pensais en vous entendant, je dis ça, vous avez cette chance d'avoir, de connaître le pouvoir des mots.
Oui, et du coup, à chaque fois, on dit aux jeunes, attendez, première chose, définition des termes. Donc, on ne peut pas parler de quelque chose sans avoir d'abord cette mise d'accord sur la définition de ce dont on parle. Et c'est pour ça aussi que nous, une des premières choses, on s'en est rendu compte puisqu'on ne l'avait pas fait les premières universités l'été, mais par exemple de reparler de ce que c'est que l'avortement au niveau technique, au niveau qu'est-ce qui se passe en fait. Je pense que beaucoup de jeunes qui sont contre l'avortement ne savent pas en réalité comment ça se passe, quelle est la procédure, techniquement parlant au niveau médecine, etc. Donc ne serait-ce que ça, voilà, te redire les choses, les faits. Puis c'est la même chose évidemment sur la question de l'euthanasie, de la fin de vie, de la PMA. Il y a beaucoup d'actes en fait qui se passent derrière les mots, des mots qui sont policés et qui font croire qu'en fait c'est nous qui sommes les méchants parce qu'on s'oppose au progrès, on s'opposerait à l'aide à mourir, à l'aide aux femmes enceintes finalement en leur proposant l'avortement. Et en fait non, nous on veut détricoter ça pour montrer aussi aux jeunes que voilà, en fait, on est du côté de l'aide, de la véritable aide à la personne, de la véritable dignité humaine, etc.
À la Le Jeune Académie, vous accueillez des jeunes qui viennent se former, vous attachez à créer du lien, à les aider à s'engager. Ils arrivent parfois, eux aussi, bien cabossés par la vie. Quand on voit le nombre de divorces, notamment dans les grandes villes, etc. Cette question de la PMA, qui peut ressurgir. Vous parliez d'Émile Duport, qui avait... ça y est, le nom m'échappe.
Et les survivants.
Les survivants, vous voyez, le syndrome du survivant. Mmh. Enfin, vous avez beaucoup de jeunes qui doivent arriver eux-mêmes cabossés. Mmh. Comment vous procédez? Comment vous les accueillez?
Alors déjà, on a beaucoup de petits ateliers où souvent, on le remarque souvent lorsqu'on fait visionner un film. Dans toutes les sessions, il y a un soir qui est dédié à regarder un film et après à rediscuter dessus après. Et c'est souvent du coup un film qui va toucher tout ce qui est la question de l'avortement, de l'euthanasie. Et c'est souvent après dans ces petits groupes où il y a un membre de l'équipe de direction qui va venir avec eux pour encadrer, pour poser des questions, que les gens se livrent énormément parce qu'ils se sentent écoutés, ils savent qu'ils ne sont pas jugés. Et donc on a souvent des témoignages très forts. Et en fait, on se rend compte que c'est des sujets qui touchent tout le monde. Mmh. Tout le monde. Moi, je me souviens d'une jeune fille, on avait beaucoup discuté, et puis elle était venue me voir en me racontant qu'en fait, elle avait une tante, ça lui était arrivé d'avoir avorté. Et en fait, c'est des gens qui se sentent vraiment très à l'aise et, comme je disais tout à l'heure, vraiment pas jugés. Mmh. Et donc, la parole se libère.
Je voudrais vous demander à toutes les deux, j'évoquais au départ dans mon introduction, tous ceux qui nous ont précédés dans le combat pour la vie. Depuis toutes ces années, on peut partir peut-être de 1974, la loi pour l'avortement, et puis tout ce qui s'est passé autour de 2013, ce changement de civilisation appelé dans les vœux de Christiane Taubira, tous ces combats-là. Vous étiez jeune, vous, en 2013-2014. Vous étiez enfant, en fait. Oui. Et maintenant, vous vous levez, vous êtes cette génération que la Fondation Le Jeune soutient. À juste titre, parce que c'est vous qui êtes maintenant en première ligne. Dites-nous, en toute franchise, le regard que vous portez sur les combats passés. Est-ce qu'on a tout raté, Constance de Massia?
Non, on n'a pas tout raté, parce qu'en fait, on a de la chance d'avoir ces exemples-là qui nous dit, mais en fait, ça continue. Et il ne faut pas s'arrêter sur ce qu'on peut appeler souvent des échecs ou ce qui n'a pas marché, pardon. Parce qu'on a nos parents, on a nos grands-parents, en fait, qui nous ont aussi donné cet élan aujourd'hui de nous engager et de nous dire, c'est pas parce que ça ne marche pas à petite échelle que ça ne marchera pas plus tard.
Oui, mais la constitutionnalisation de l'avortement en 2024, c'est un tel coup de poignard dans notre civilisation, civilisation de la personne humaine, du respect, de la transmission. Marie-Lise Pélissier, quel regard vous portez, vous ?
Alors, je me dis qu'on est tombé bien bas, mais le jour du vote du congrès de la constitutionnalisation de l'avortement à Versailles, j'ai fait un discours où j'ai remercié ceux qui se sont battus jusque-là. Et je suis extrêmement admirative de ceux qui viennent. Je donne l'exemple de la Marche pour la Vie, mais évidemment, il y a toutes les autres manières de combattre aussi, qui viennent à la Marche pour la Vie depuis 75, qui se mobilisent sur ce sujet depuis 75. Je suis extrêmement admirative et je me dis, mais heureusement qu'ils sont là. Parce que s'ils avaient déserté, je pense que moi, je serais pas là.
Exactement. On est héritiers. Et comme vous dites, Constance de Massia, on est dans un temps long. Voilà, il y a eu aussi énormément de belles initiatives, parfois très très cachées, très secrètes. Je pense à Mère de Miséricorde, on jeûne pour une jeune femme, un couple qui hésite à garder ou pas son bébé, choses comme ça. Dans tous les noms que j'ai évoqués tout à l'heure, bien sûr, j'aurais dû dire le docteur Dor qu'on a souvent entendu là. Ben oui, il nous a mis en chemin. Donc ça m'intéressait beaucoup d'avoir votre regard là-dessus. Je pense que nos auditeurs, ils sont sensibles. Ont besoin d'être rassurés également. Non, tout n'est pas fichu. Et vous êtes là toutes les deux pour nous le dire. Cette Le Jeune Académie qui existe depuis 5 ans. Oui. Donc ça y est, vous commencez à avoir une expérience. Qu'est-ce qui a changé en 5 ans par rapport au départ? Vous êtes toutes les deux fondatrices. Qu'est-ce que vous avez adapté? Qu'est-ce que vous avez abandonné, ajouté? Comment sentez-vous l'évolution? C'est intéressant, Constance de Massia.
On s'est beaucoup appuyé sur les besoins de nos participants, notamment à chaque fin d'académie, on leur fait passer un petit questionnaire où ils nous disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils aimeraient en plus, ce qu'ils voudraient qu'on change. Et on s'est rendu compte, on a beaucoup amélioré toute la forme, c'est-à-dire, par exemple, on s'est rendu compte que nos participants avaient besoin d'un argumentaire avec tous les arguments, avec toutes ces choses-là. Et puis aussi, le suivi dans l'année, on a commencé à organiser des week-ends de retrouvailles. Donc, vraiment les accompagner tout au long de l'année et puis qu'il y ait une vraie continuité. Également, le développement des antennes pro-vie locales, en fait. Donc, où ils peuvent se retrouver, toutes ces choses-là. Et puis, on a beaucoup plus d'assos maintenant qui viennent aussi se présenter à nous. Et donc ça, c'est vraiment un grand point de progression.
Avant de vous poser la même question, Marie-Lise Pélissier, j'aimerais, Constance de Massia, puisque vous êtes responsable du pôle cohésion et que vous venez de l'évoquer sur ce temps, au cours de l'année, etc. Que faites-vous au pôle cohésion de la Le Jeune Académie?
Alors, on a deux grandes activités pendant la Le Jeune Académie. Souvent, donc, c'est des après-midi. Alors, la première activité, c'est un des points de progression. Parce que donc on est dans des coins différents de France et puis les gens nous ont dit quitte à y aller, est-ce qu'on pourrait pas découvrir un peu la région? Donc on fait une activité un peu plus touristique, on va dire, où on leur fait découvrir la ville dans laquelle on est. Et puis il y a toute une activité aussi sportive parce qu'on se rend compte que le sport ça fédère les équipes Et donc, on a toute une activité où toute une après-midi, on va faire plein de jeux autour du sport par équipe. Et souvent, on aime bien rassembler les gens par région pour qu'ils apprennent aussi à se connaître, à se découvrir par région et qu'ils puissent se retrouver après tout au long de l'année. Et puis, il y a aussi tous les soirs un apéritif où on se retrouve, un vrai temps convivial, toutes ces choses-là.
Cette année, la Le Jeune Académie se déroulera du 16 août au 23 août en Anjou. Donc vous allez découvrir la douceur angevine.
Exactement.
Marie-Lise Pélissier, même question. Donc, quelle évolution qu'observez-vous ? Ça va très vite. Bon, là, on est sur l'euthanasie. On va vraiment en parler dans la fin de notre rencontre. Mais qu'observez-vous sur ces 5 ans, comme ça, quelle est votre impression ?
Alors déjà, moi, je suis très heureuse de ce qui est devenu, enfin de ce qu'est la Jeune Académie, mais en fait même dès la première année, on est sorti de la première édition en se disant waouh, vraiment le pont Dieu est derrière, ça c'est sûr. Et donc déjà ce que je peux dire, c'est que dès la première année, ce qui nous a étonné et ce qui continue de m'étonner mais agréablement, c'est que les jeunes qui viennent, et vous le dites, vous l'avez dit, sont un peu cabossés par la vie. Ce ne sont pas du tout les petits jeunes habitués de la marche pour la vie qui ont reçu ça de leur famille. Enfin, en tout cas, on a un peu de tout, en fait. On a un peu de tout et moi, je suis hyper admirative de jeunes qui viennent, qui ont des familles qui sont pro-avortement, pro-euthanasie et qui viennent justement parce qu'ils ne veulent pas être... Ils veulent arrêter d'être seuls, en fait. Ils veulent trouver des jeunes parce qu'eux ont fait le cheminement. Parce que pour venir à la Jeune Académie, il faut quand même être d'accord avec nos valeurs. C'est ce qu'on dit. On dit bien, la marche pour la vie, c'est aucun zéro avortement, zéro euthanasie et la protection de la vie du début à sa fin.
Je vous coupe, Marie-Lise, parce que j'ai oublié, il faut être catholique ?
Non. On n'est pas. Alors, on est aconfessionnel sur le papier. En revanche, on ne met pas de côté l'arme de la prière. C'est-à-dire que toute la semaine est proposée la messe tous les jours, le chapelet tous les jours, et puis la chapelle est toujours ouverte. C'est une de nos conditions quand on cherche un lieu, parce qu'on change chaque année de lieu. Nos conditions, c'est qu'on puisse avoir une aumônerie sur place, parce que le combat est un combat eschatologique, et donc pour tous les catholiques, on ne peut pas nier cet aspect-là. En revanche, on a déjà eu des protestants, un protestant, un évangélique, un athée, 2 athées. Évidemment que ça se compte sur les doigts d'une main, mais en tout cas, on fait en sorte qu'ils puissent être accueillis, notamment dans notre communication. Voilà, on ne prône pas parce que, en fait, notre conviction, c'est que pour être pro-vie, on n'a pas besoin d'être catholique pour être pro-vie. Et tous les arguments qu'on va développer, eux, sont raisonnables et sont rationnels. Même, on a parlé de la contraception l'été dernier, même ça, en fait, même si on va évoquer, bien sûr, la théologie du corps, en fait, tous les arguments pour l'amour vrai se comprennent aussi d'un point de vue humain, philosophique. Donc ça, c'est une grande conviction. Et donc voilà, ces jeunes qui viennent, c'est pour ça qu'on insiste un peu sur la cohésion, sur le réseau, et ne pas les laisser seuls, parce que très souvent ils se sentent seuls. Mmh. Et c'est ça qui nous a lancé sur la Jeune Académie, c'est que pour que les jeunes se retrouvent et puissent se former, répondre aux attaques qu'ils reçoivent dans leur fac, dans le lycée et parfois même dans leur famille.
Combien de jeunes pourrez-vous accueillir du 16 au 23 août en Anjou pour cette session de l'été ?
60.
60. Et pour l'instant, vous avez combien d'inscrits ?
La moitié.
La moitié ?
Oui, exactement.
Donc, il est temps de le faire. On peut le faire en se rendant sur lejeune-academie.com. Donc, je vous le disais, vous aurez un questionnaire. On va vous demander si vous êtes plutôt cerveau droit, cerveau gauche. Je trouve ça vraiment extra. Ce que vous avez déjà fait, ce que vous êtes prêt à faire, et puis on vous donnera une réponse. Info pratique, donc 18 ans à 27 ans. 100 € par personne, tout frais inclus, logement en chambre, aide pour l'organisation de transport. Et donc, cela se déroulera en Anjou. Cette année, quelle va être la spécificité ? Sur quoi allez-vous l'axer, votre université d'été ?
On va surtout continuer sur les questions qui touchent l'euthanasie. Mais on essaye toujours de donner une vision qui est assez complète. Donc, on reprendra toujours des sujets sur l'avortement, sur l'euthanasie, la contraception. Et puis, toujours d'un point de vue médical, un point de vue aussi philosophique, un point de vue aussi juridique. On essaye vraiment de donner une formation la plus complète possible.
Marie-Lise Pélissier, bien sûr, l'actualité chaude en ce moment, c'est ce vote sur l'euthanasie. Je voudrais vraiment rendre hommage à tout ce que vous faites. Vous êtes une jeune femme, début de carrière, etc. Vous vous lancez et vous allez dans les médias et vous bougez. Moi, je vous suis avec grand plaisir sur le groupe WhatsApp Urgence non à l'euthanasie que vous avez créé en janvier, où il y a plus de 1000 personnes qui vous suivent activement. Je le dis pour que éventuellement les personnes puissent vous rejoindre. Comment peut-on procéder sur WhatsApp? On retrouve le groupe Urgence non à l'euthanasie.
Oui.
Et on vous envoie un petit message?
Bah voilà, il faudra soit prendre mon numéro de téléphone, soit contacter la Marche pour la Vie, contact@enmarchepourlavie.fr.
Vous pouvez le redire?
contact@enmarchepourlavie.fr.
Très bien.
Ou sur notre site internet.
Oui.
Et là, vous demandez, je veux rejoindre le groupe WhatsApp et... Donc vous donnez
à chaud les nouvelles en direct de l'Assemblée. Plusieurs députés sont en train d'hésiter. Que fait-on? Je trouve ça extrêmement concret. Alors dites-nous aujourd'hui, là, 27 avril, Marie-Lise Pélissier, où en sommes-nous de ce projet de loi avec les différentes étapes qui sont passées au Parlement?
Alors, le projet de loi donc, a été voté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale en février. Beaucoup ont cru que c'était fini, mais non, et merci de nous permettre d'en reparler. En fait, il y a encore beaucoup d'étapes et le projet de loi n'est pas voté. Il retourne donc au Sénat le 11 mai. 11, 12, 13 mai, il devrait être voté le 13 mai si ça ne s'allonge pas. J'ai bien aimé parce qu'il y avait il était prévu la semaine sainte, le vendredi saint, et puis on est passé du vendredi saint à l'Ascension, donc peut-être un signe d'espérance. On verra comment les sénateurs traitent le sujet. On se rappelle qu'ils avaient voté en première lecture contre ce projet de loi euthanasie et suicide assisté. Vont-ils encore le rejeter? Je l'espère. Et puis ensuite, après cette lecture, on ne sait vraiment, on navigue à vue parce qu'on ne sait pas s'il y aura une commission mixte paritaire. Tout dépend du Premier ministre. Et puis, même s'il y a une commission mixte paritaire, il y aura encore une lecture à l'Assemblée, voire plusieurs lectures. Donc, ça peut s'allonger. L'idée, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire passer cette loi avant l'été? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on voit et ce qui est motif d'espérance, c'est qu'on a gagné des voix. Il y a plusieurs députés qui ont changé finalement d'avis. Et puis, il y a beaucoup de gens qui prennent la parole, des malades, des soignants, qui s'opposent à ce projet de loi. D'autant que, rappelons-le, ce projet de loi euthanasie est le plus permissif au monde. Bien sûr, même s'il était restreint, ça serait déjà très grave. Mais là, il est aggravé par...
Et puis il y a la lourde question du délit d'entrave. Oui. Du délit d'entrave. Là aussi, le Sénat a essayé de limiter la casse, si j'ai bien compris, en étendant la possibilité d'objection de conscience, déjà, objection de conscience aux pharmaciens. On avait reçu ici des pharmaciens qui disaient « mais moi je vais être obligé de fournir le produit ». Sinon, ça sera un délit d'entrave, je ne pourrais pas m'opposer. Donc, sur ces deux points, objection de conscience et délit d'entrave, j'ai l'impression que le Sénat a essayé de limiter la casse. Mais qu'en est-il exactement, Marie-Lise Pélissier?
En première lecture, effectivement, ils avaient remis l'objection de conscience pour les pharmaciens et pour les établissements de santé, il me semble. J'espère ne pas me tromper sur ça, mais il me semble bien qu'ils avaient milité dans ce sens. Et puis, ils avaient enlevé le délit d'entrave. À l'Assemblée nationale, ils ont évidemment rechangé, ils ont enlevé l'objection de conscience pour les pharmaciens, ils ont enlevé l'objection de conscience pour les établissements de santé, malgré le combat acharné de plusieurs députés, mais ils ont tenu à ne pas permettre qu'il y ait des établissements de santé où on ne puisse pas pratiquer l'euthanasie.
Et pardon, mais on pense particulièrement à tous les endroits qui sont tenus par des communautés religieuses,
oui,
qui disent mais finalement nous on accueille des personnes âgées, des personnes en fin de vie, et personne ne pourra nous contraindre. Enfin, c'est le cœur de notre vie à précipiter la mort.
Oui. Et elles disent qu'elles fermeraient cette loi passe. Donc l'Assemblée a tout remis. Donc les débats en commission au Sénat reprennent demain. Donc on verra que comment tourne. Est-ce qu'ils vont enlever l'acte létal comme ils avaient fait? C'est ce qu'on aimerait. Hein. On voudrait qu'ils enlèvent l'acte létal. Comme ça, le texte est complètement dénué de sa substance. Je pense qu'ils militeront en tout cas en faveur d'un texte plus encadré. Mais je vous avoue que moi, ma crainte, c'est que finalement, les deux chambres se mettent d'accord sur un texte plus encadré, avec l'argument des garde-fous qui ne tiennent pas, on l'a vu dans tous les pays. Et en fait, c'est dramatique, parce qu'en fait, même avec des garde-fous, cette loi ne doit pas passer, parce que c'est une loi qui abandonne complètement nos plus fragiles.
Bonne nouvelle, en Europe, elle ne passe pas au Royaume-Uni, en Écosse. C'est un signe d'espérance pour nous.
C'est un signe d'espérance, c'est un signe aussi, enfin c'est un motif d'engagement. C'est ce que je disais justement sur ce fameux groupe WhatsApp.
C'est ma source. C'est... Hein.
Je disais mais voilà, on peut y arriver. On peut y arriver. Ça existe dans les pays qui sont juste à côté de nous. Arrêtons de croire que la France est en retard, comme nous répètent à l'envi les promoteurs de l'euthanasie. Et il n'y a que 5% des pays de l'ONU qui ont légalisé une euthanasie ou le suicide assisté, ce qui est strictement rien. Alors pourquoi la France devrait-elle nécessairement le faire? Donc on a une marge de manœuvre. Et moi, j'ai peut-être la folie de mes 24 ans, mais j'y crois.
Mais je crois, d'autant plus que le nombre de députés hésitants qui basculent dans le camp du contre,
oui.
Donne de l'espérance.
Oui. Oui, oui.
Voilà. Donc, chers amis, il ne suffit pas de regarder passivement. Allons à la rencontre de ceux qui ont ce vote entre leurs mains. Hein, voilà, c'est notre devoir. Et jouons notre influence au maximum. On a tous une influence. Constance de Massia, sur la question de l'euthanasie, précisément, les jeunes qui viennent à vous dans la Le Jeune Académie arrivent avec les contenus de leur âge, par les canaux des médias, par l'école, avec parfois, j'imagine, une fausse empathie, une empathie mal ordonnée, hein, qui peut laisser croire que accompagner quelqu'un pour qu'il ne souffre pas, abréger les souffrances, permettre à une personne âgée de partir de manière plus dignement, de manière plus digne, est un bien. Comment vous faites pour c'est ce qu'on disait avec les mots, revenir au vrai? Par le témoignage, par des supports culturels?
Le témoignage parle énormément.
Ouais.
Et puis vraiment toujours leur dire, mais comme vous dites, revenir au concret, revenir au réel en fait. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quels sont les gens avec qui vous en avez parlé, toutes ces choses-là? Et puis en fait, leur donner aussi des exemples, même dans nos familles, et de leur dire, mais en fait, nous on connaît des gens, grâce aux soins palliatifs, ils ont pu se réconcilier avec un enfant sur leur lit de mort, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est des choses qu'on ne dit pas assez, qu'on ne montre pas assez, en fait. Et puis, du coup, la vie humaine perd de sa valeur. Enfin, on ne doit pas tout donner pour se battre. Et en fait, le problème, et ça Marie-Lise vous le dira mieux que moi, mais c'est les soins palliatifs aussi qui ne sont pas du tout assez développés. Il n'y a que 26 départements en France. Il y a 26 départements en France qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. Donc, on essaye vraiment de leur dire... Il faut se rattacher au concret, il faut se rattacher aux choses réelles et attention, voilà, comme vous dites, à la fausse empathie, à l'empathie un peu fallacieuse qui ne vient pas régler le problème de fond.
J'aimerais vous poser une question à toutes les deux qui n'est pas sur l'euthanasie, mais sur le don de la vie. Vous êtes toutes les deux très jeunes, vous avez moins de 25 ans, vous côtoyez par votre activité universitaire, professionnelle, associative, beaucoup de jeunes. On voit ce mouvement No Kids, des jeunes qui ne veulent pas donner la vie. Comment peut-on le comprendre? Comment peut-on l'accompagner avec charité, vérité? Marie-Lise Pellissier,
cette volonté de ne pas avoir d'enfant. En fait, je rebondis sur le connecté au réel. Je pense que c'est la mentalité No Kids coupe la femme, je pense particulièrement à la femme, de ce qu'elle est. Parce que oui, je pense que le désir d'engendrer, même chez l'homme, et c'est Aristote qui le disait, est inné à l'homme. Alors après, et c'est marrant parce que je vois pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, là, notamment des femmes de droite qui essayent de remontrer à quel point, on nous a menti. Enfin, les féministes, le mouvement féministe a menti sur la maternité en disant que c'était de l'esclavage, que c'était quelque chose d'atroce qui déformait le corps, etc. Et en fait, moi, je dis souvent, j'aime utiliser l'expression « il faut redorer le blason de la maternité ». Parce que évidemment, il ne faut pas dire que la maternité, c'est tout rose et que c'est facile, mais vous en parlerez mieux que moi. Il faut montrer à quel point c'est quelque chose de beau qui n'asservit pas la femme. Et ça, on essaie de le montrer aussi, Jeanne. Alors évidemment, dans le Jeune Académie, il n'y a pas trop cette mentalité-là, mais je pense que c'est par le bien qu'on va attirer. Ce n'est pas en disant « ça c'est mal, ah, vous ne voulez pas avoir d'enfants, c'est mal ». Non, c'est « mais regardez comme c'est beau ». D'avoir des enfants, regardez quel accomplissement ça peut être et quel don, en fait, comment vous vous réalisez dans le don. Donc voilà, c'est toute cette idée-là. Et puis je pense qu'en fait, la mentalité No Kids, elle ne va pas durer parce que vraiment, elle est pas.
Tellement
elle est pas
anti-naturelle, humaine. En fait. Mmh. Ça. Constance de Massia, vous ajouteriez quelque chose dans ce domaine, peut-être un témoignage
C'est marrant parce que moi, j'en discute aussi pas mal à la fac.
Ouais.
Et quand je discute avec les gens, en fait, vous vous rendez compte que c'est plus parfois un peu par idéologie, parce qu'aujourd'hui, c'est pas écologique d'avoir des enfants ou toutes ces choses-là. Mais quand vous discutez avec eux, souvent, les filles me disent, moi, en fait, il suffit que je trouve la bonne personne et, oui, en fait, j'ai envie d'avoir des enfants. Mais c'est pas à la mode. Et alors, du coup, elles se restreignent, elles osent pas trop dire, même beaucoup de garçons. Hein. Je discutais avec des amis aussi qui me disaient qu'ils sont pas du tout catholiques, et qui me disaient, moi, j'ai carrément aussi envie d'avoir des enfants, mais ça me fait peur parce qu'aujourd'hui, on nous présente un peu la chose comme pas insurmontable, mais comme plein de contraintes, toutes ces choses-là, quoi.
On a perdu l'enthousiasme, l'envol, le don qui propulse. On croit que ça va nous enfermer. En fait, ça nous propulse. Et ça il faut pouvoir en témoigner. Il faut qu'il y ait des gens qui en vivent.
Oui. Justement, je parlais avec une jeune fille qui est avec un homme depuis longtemps et qui aimerait avoir des enfants. Et on était en week-end où il y avait une fille qui avait fait son enfant et elle disait « Ah, mais c'est trop mignon, j'ai trop envie d'avoir des enfants, mais en fait, je me sens pas prête parce que je sais pas m'occuper de moi-même et donc je me sentirais pas de m'occuper d'un enfant. » Et du coup, parfois, c'est vraiment par bonne intention,
oui.
Mais parce qu'elles se mettent une pression énorme et parce que je pense que la société met une énorme pression sur les parents. Et donc, c'est aussi pour ça. Et ce qui est beau, c'est que la jeune femme qui avait donc son enfant, son enfant c'était surprise, quoi. Il était venu plus tôt que prévu. Et elle dit, mais en fait, du coup, j'ai tout appris sur le tas. Mmh. Et en fait, c'est beau et c'est comme ça qu'on grandit. Et en fait, si on attend d'être prête, on va pas s'en sortir.
Là aussi, vous nous donnez de l'espérance. Et Marie-Lise Pélissier, je le disais, vous êtes présente dans les médias, on parle de vous, on vous invite dans des débats, ça frotte. Comment d'abord vivez-vous cela? Et puis, sentez-vous, dans des médias peut-être moins acquis que le nôtre, Radio Courtoisie, sentez-vous dans ces médias-là une oreille, une écoute, quelque chose qui peut changer, vous voyez, sortir de l'idéologie. Vous le sentez ou non? Dites-nous.
Ça dépend. Vraiment, dans certains médias, on sent qu'on est les affreux. Qu'on est les affreux, qu'on ne peut pas écouter. Mais puis c'est pour ça que je prends toujours et j'essaye d'adopter toujours la position douce et ne pas
vous le faites très bien
à rentrer trop en colère, même si parfois cette loi me met en colère. Et quand vous demandez comment vous vivez, parfois c'est dur parce que en fait ce qui est très dur, quand j'écoutais les débats à l'Assemblée. Et encore une fois, je salue les députés qui se sont battus de manière coriace.
Ouais.
Mais en fait, c'est effrayant d'écouter ceux d'en face qui défendent mordicus la mort des gens. Enfin,
en hurlant, en vociférant. Vous avez un médecin député qui vient expliquer, qui part de son expérience, qui met des mots, il mesure. Il n'est pas idéologue et il ne peut même pas finir une phrase. Ça vocifère. C'est diabolique,
oui,
en fait.
Bien sûr, c'est diabolique. Et c'est là où je pense que l'arme de la prière est très importante. Et moi, je m'accroche à ça aussi. Mais il y a quand même des gens qui changent d'avis. Il y a quand même des médias qui nous invitent alors qu'on n'y était pas du tout invité auparavant. Donc ça veut dire qu'ils nous donnent quand même voix au chapitre et ils sont capables de voir qu'on a des arguments plausibles. Les choses se disent de plus en plus. Il y a le cas de Noélia qui a beaucoup choqué. Donc, en fait,
Noélia, rappelez-nous,
Marie-Lise. Noélia en Espagne, 25 ans, qui avait fait une tentative de suicide suite à un viol, plusieurs viols d'ailleurs qu'elle avait vécu étant enfant. Là, elle a fait une tentative de suicide à 20 ans à peu près. Et à 25 ans, elle a demandé l'euthanasie à
l'État. On a presque suivi en direct, c'était épouvantable.
Et demain, je rencontre justement l'avocate du père de Noélia. Et donc, j'ai hâte de savoir aussi, parce qu'il y a beaucoup eu de fake news sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, cette histoire a beaucoup choqué l'Espagne comme la France. Et je pense que ça peut réveiller les consciences, de bien faire prendre conscience aux gens que cette loi n'est pas une loi d'humanité, comme on nous fait croire, mais que c'est une loi d'abandon et que la vraie humanité, c'est de développer les soins, l'accompagnement et tout ce qu'il y a autour.
Merci beaucoup à toutes les deux, Marie-Lise Pellissier et Constance de Massia. Je rappelle les informations pratiques pour cette rencontre de cet été de la Le Jeune Académie qui se déroulera le 16 août, du 16 août à 18h au 23 août 10h en Anjou. Chers amis, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site lejeune-académie.com. Vous pouvez également peut-être, auriez-vous un numéro de téléphone, Constance de Massia, à nous donner, où on le trouve sur le site de Jeune Académie ?
Ça se fait assez bien sur le site, bon. Directement.
Alors, chers amis, y compris si vous êtes grands-parents et vous y pensez pour vos petits-enfants, renvoyez-les sur le site. Constance de Massia, pour conclure, je voulais vous demander ce que vous a appris à vous, la Le Jeune Académie.
Je pense que la Le Jeune Académie, ça m'a vraiment appris à ne pas avoir peur de sortir de moi-même et d'être présente aujourd'hui.
Merci, et merci de votre confiance.
Et de me dire, en fait, il faut qu'on redonne cette espérance aux jeunes, à nos parents, à nos grands-parents, que en fait, c'est pas fini. Et on est encore là et on sera encore là. Et il y a de plus en plus de jeunes qui recherchent du sens et rien n'est fini.
Marie-Lise Pellissier, Qu'est-ce que vous avez appris par la Le Jeune Académie en 5 ans ?
Ah, il faut que je trouve une chose. J'ai beaucoup aimé voir évoluer des jeunes qui, justement, n'étaient pas du tout engagés, qui ont fait le choix de consacrer une semaine de leurs vacances pour parler de ces sujets qui ne sont pas faciles, encore une fois, et qui aujourd'hui sont à la tête de très beaux projets. Je pense par exemple à Clotilde qui s'est retrouvée responsable de 40 jours pour la vie en France, qui existe dans plein de pays du monde et qu'on a enfin créé en France. Donc j'ai trouvé ça très beau et j'apprends toujours par ces jeunes justement qui évoluent et qui me font progresser dans mon combat pour l'argumentaire, mais même pour le contact humain, pour comment faire passer notre message à la société.
Merci à toutes les deux. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, j'espère que vous vous nourrissez de cette belle jeunesse enthousiaste qui donne, qui reçoit, hein, mais qui donne. Et vous êtes pour nous une grande source d'espérance, en tout cas. Merci à toutes les deux d'être venues dans notre beau studio de Radio Courtoisie qui attend vos dons pour se développer, pour pouvoir proposer de belles émissions comme celle-ci. De plus en plus, une radio associative, eh bien, elle s'appuie sur vos dons, elle s'appuie sur vous. Et c'est une clé de liberté. Merci beaucoup à Jocelyn, que j'oublie toujours de remercier, mais là aujourd'hui, merci Jocelyn à la réalisation. Et je vous donne rendez-vous avec beaucoup de joie dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Transmission, dirigé par Valérie Daubigny, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 27 avril 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.